France Inter.
La liberté d'expression est une chose qui change. Nous pouvons, fut un temps, dire quelque chose que nous ne pouvons plus dire maintenant.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre deuxième série préférée après Succession, Zoom Zoom Zen. Ou plutôt, comme diraient nos amis de France 3 Île-de-France qui nous ont fait l'honneur de nous consacrer un reportage la semaine dernière.
Zoom, mais zen. Zoom sur un sujet ardu, zen, la façon d'en parler.
Et dans Zoom Zoom Zen, qui contrairement à ce que vous pouvez laisser entendre ce reportage, n'est pas une sorte de C'est pas sorcier sociétal destiné uniquement au 8-14, on zoome sur un mot dans l'air du temps, soit qu'il est nouveau, soit qu'il fait débat. Aujourd'hui, un concept dont les contours sont l'objet d'intenses discussions depuis, 2000 ans, la liberté d'expression. Pour certains, elle est sacrée, absolue, ne doit souffrir aucune contestation. La rédaction de Charlie Hebdo doit pouvoir publier les unes qu'elle souhaite, peu importe qui elle blesse. On ne touche pas, par principe, à la liberté d'expression. Pour d'autres, au contraire, cette liberté absolue d'expression est un danger, car elle permet aux uns de crier leur haine et aux autres de surenchérir dans un cercle vicieux de l'invective. Au sein même de notre équipe, je ne vous cache pas que le débat fait rage. Entre d'un côté, mon attachement viscéral, jusqu'au boutiste, à la liberté d'expression, qui fait, par exemple, que Quentin peut me comparer à Saruman, sans voir son contrat remis en cause, ni sa carrière s'effondrer. Et de l'autre, l'attachement viscéral, jusqu'au boutiste aussi, de Cyril Lacarrière, mais au fait qu'on ne se foute pas de sa gueule. Pour lui, la liberté d'expression de l'autre s'arrête très clairement là où commence sa réputation à lui. Notre rédacteur en chef démontre un tel goût pour la censure qu'on se demande si c'est vraiment au FBI qu'il a bossé, et pas plutôt à la Stasi. Dernier exemple en date, cet enregistrement d'une émission du vendredi où Quentin s'était permis de se moquer du nombre de vues sur YouTube du D'où ça sort, la rubrique de Cyril, une pique que Cyril a décidé de censuré au montage, à l'écouter, rien de personnel, simplement je cite « En tant que spécialiste média, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi, or en l'occurrence, l'essentiel de l'audience du D'où ça sort se joue sur Dailymotion. » On le voit, certains ont une vision de la liberté d'expression à géométrie variable, mais qui a raison, Cyril ou moi ?
Moi.
Espérons que notre invité ait bien compris qui était vraiment en charge de cette émission. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Géraldine Mühlmann.
Bonjour Mathieu Noël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes prof de sciences politiques et de philosophie politique à l'université Paris 2 Panthéon à Sas. Je signale votre dernier livre, L'imposture du théologico-politique. Belle lettre, oui. Vous reviendrez pour parler de ça. Mais en 2015, vous aviez coécrit La liberté d'expression avec Emmanuel Decaux et Elisabeth Zoller. Alors même si on va en débattre pendant une heure, vous pouvez déjà nous donner un petit avant-goût. La liberté d'expression, elle doit être absolue, sacrée, sans limite ou pas ?
Alors sacré, je n'emploie pas ce vocabulaire, car comme vous venez de le signaler, je combats, notamment dans mon dernier livre contre le théologico-politique, le retour d'un vocabulaire religieux pour parler de choses qui sont des valeurs sécularisées, comme on dit laïques, républicaines. Donc je ne dirais pas sacré, d'ailleurs les républicains ne disaient pas sacré. Je pense qu'elle est une valeur extrêmement importante. Quant à savoir s'il faut la limiter, elle est limitée, Mathieu Noël. Elle est très limitée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que des délits d'expression peuvent exister, mais définis dans la loi. Et c'est le cas, puisque notre loi républicaine de 1881, souvent réécrite, prévoit des délits d'expression très précis.
On va discuter de l'encadrement actuel et possiblement futur de cette liberté d'expression. On va en discuter, mais je vous présente mon équipe, à commencer par ces deux jeunes journalistes qui, vivant sous la férule autoritariste, pour ne pas dire polpotienne, de Cyril Lacarrière, non de la liberté d'expression, qu'une expérience limitée. Même chez Blériot, le restaurant où nous emmène parfois déjeuner Cyril, quand il n'est pas trop mal luné, c'est-à-dire deux fois par mois, leur liberté de parole est strictement encadrée. Sur les cuissons notamment, ils n'ont par exemple pas le droit de commander un burger autrement que à point, parce que, je cite Cyril, un burger se mange à point. Idem sur les boissons, interdiction de commander un coca, car je cite, ça vexerait William. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors, pour vous aussi les enfants, il y aura un avant et un après le fameux reportage de France 3 Île-de-France. Hein. Avant, vous veniez au micro avec une forme de candeur, d'insouciance. Désormais, vous savez que vous jouez votre réputation, votre avenir à chaque fois que la lumière rouge s'allume. Car comme le dit si justement le monsieur de France 3...
Le direct, c'est sans filet. Sans filet, c'est excitant, mais c'est aussi risqué.
Et sans filet, Quentin, c'est aussi votre devise avec les passants dans la rue. Alors, comment voit-il la liberté d'expression, ces passants ?
Grand sujet, surtout lorsqu'on tend un micro dans la rue en ce moment. C'est un poil tendu en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Non, pas possible.
En tout cas, personne n'a manqué de me donner son avis sur la question. Et ça, ça fait partie de la liberté d'expression, même pour un modeste micro-trottoir complètement à la rue.
Manon, vous, votre spécialité, ce sont les réseaux sociaux, avec toujours un œil éminemment critique. Aujourd'hui, c'est d'un rétro-pédalage qu'il est question.
Oui, depuis hier, c'est le quiproquo général après la publication d'une tribune dans le JDD signée par 150 influenceurs. Sauf que Squeezie et ses amis se sont désolidarisés de cette tribune. Je vous explique ce qu'il s'est passé dans ma veille sanitaire.
Et Manon, c'est dommage. Oui. Si vous n'aviez pas tenu des propos agistes dans le reportage de France 3, vous auriez démarré tout à l'heure le Zoom Zoom Test sans point de pénalité, hélas.
Ah. Mathieu, voilà, il a 40 ans, il a installé et compagnie. Quand vraiment, on est un peu plus jeune.
Oui, vous êtes un peu plus jeune et vous démarrez avec 2 points de handicap.
Oh non,
En fin d'émission, nous retrouverons la plume et la gouaille de l'excellentissime Benjamin Tranier avec, accrochez-vous, un nouveau personnage inédit aujourd'hui. Géraldine Mühlmann, c'est une question un peu provoque que certains n'hésitent plus à poser. La liberté d'expression dont on parle aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, est-ce qu'elle est devenue dangereuse ?
Je crois que la liberté d'expression a toujours eu quelque chose de rugueux et surtout, même tous les gens qui l'ont défendue savent, on dit, qu'elle pouvait blesser, choquer, qu'elle peut avoir quelque chose d'offensant. On trouve ça dans des arrêts de la Cour suprême américaine, qui est quand même le pays où elle est la plus illimitée, en tout cas la moins limitable. Et puis en France, on le dit volontiers, vous voyez, même dans le procès de Charlie Hebdo, où pour les caricatures en 2007, Charlie n'a pas été condamné, il y avait une caricature qui posait un petit peu problème et la Cour a dit, voilà, ce dessin peut, c'est vraiment clair, en mars 2007 dans l'arrêt, peut être choquant, voire blessant pour des gens qui ont une sensibilité musulmane. Pour autant, il n'y avait pas d'intention de blesser, etc. Et donc, bon, vous voyez, il y a une reconnaissance du fait que même quand c'est légal, hein, quand c'est autorisé, il peut y avoir quelque chose de blessant, de choquant. Alors évidemment, si tout le monde, chaque fois qu'on est blessé, on dit ça ne va
ça
pas.
Va poser problème.
En tout cas, ce n'est pas le point de vue du blessé ou de l'offensé qui doit être le seul point de vue.
Alors, Gerline, c'est le moment qu'attendent chaque après-midi vers 16h05, fébrile, ces 147 fans sur Dailymotion.
16h11.
Son doux assort, c'est vrai qu'on est un peu en retard, son doux assort est pour eux bien plus qu'une simple rubrique journalistique, un véritable talisman sur lequel leur vie n'aurait plus de sens. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Un grand pouvoir appelle de grandes responsabilités,
oui.
Spider-Man.
Oui.
J'espère que vous serez une fois de plus à la hauteur. Dites-nous, la liberté d'expression, d'où ça sort ?
Et je vous propose un petit bond dans le temps, léger, jusqu'à l'Antiquité. Voilà un bond de 5 millénaires. Back in the days, les penseurs grecs ont théorisé la liberté de penser et la liberté d'expression comme des droits fondamentaux de l'individu. Parmi ces deux petits malins, Socrate et Platon. On quitte les Grecs pour l'Italie au Moyen-Âge. Un autre philosophe réaffirme l'importance de la liberté d'expression, Thomas d'Aquin, qu'on appelle désormais Saint Thomas d'Aquin. Pour lui, la liberté d'expression est nécessaire à la recherche de la vérité.
Et depuis cette époque lointaine que vous seul avez connue, Cyril, est-ce que le concept de la liberté d'expression a évolué ?
Chaque fois, vous me bluffez par vos questions si pertinentes, Mathieu. Comme vous le pressentez, vous, être omniscient, la notion a effectivement évolué. La liberté d'expression telle qu'on l'envisage aujourd'hui trouve son origine au XVIIIe siècle, dans deux révolutions, l'américaine et la nôtre, la française. La déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique de 1776 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipulent chacune que la liberté d'expression est un droit fondamental. Mais il ne suffit pas d'être inscrit dans la Constitution pour ne pas être remis en cause. À partir du XIXe siècle, voilà cette chère liberté d'expression attaquée par des lois qui la limitent pour des motifs politiques et religieux notamment. De nos jours aussi, la liberté d'expression la vie de la liberté d'expression n'est pas un long fleuve tranquille. On s'interroge sur ses exceptions, ses limites, les outrages qu'elle permet, la violence qu'elle peut entraîner, les blessures qu'elle peut infliger. La liberté d'expression, est-ce que c'est encore d'actualité ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril, et évidemment vous vous tenez à la disposition des auditeurs qui souhaiteraient plus de précisions sur la doctrine de saint Thomas d'Aquin, car vous pourriez en parler pendant
des heures.
Géraldine Mühlmann, on va s'arrêter là-dessus sur cette notion de la définition de la liberté d'expression. Est-ce qu'elle est différente cette définition dans la loi et pour les philosophes à travers les temps ? On voit que c'est une notion qui interroge depuis des millénaires maintenant. Est-ce qu'il y a une définition philosophique de la liberté d'expression ?
Pas vraiment. En vérité, lorsqu'on s'empare d'un sujet comme ça, on est obligé de voir que c'est une dimension politique. C'est le droit de parler, de dire ce qu'on a envie de dire. Et la question qui se pose est de savoir si on doit limiter ce droit. Et ça, c'est une question que les philosophes se posent aussi. Même si disons que c'est pas immédiatement la question en termes de droit, il se pose la question en termes de valeurs. Est-ce qu'il faut avoir des valeurs qui la comptent? Et donc, à peu près tous les républicains disent c'est une valeur, elle peut blesser, oui, mais ça doit, le fait d'être blessé ne suffit pas à l'interdire. Il peut y avoir dans certaines cultures, c'est le cas de notre culture française, des définitions de délits, d'abus, si vous voulez, dans la loi. Aux États-Unis, en revanche, comme il a été précisé, il y a un premier amendement qui interdit de faire au Congrès de faire toute loi qui limiterait la liberté d'expression, dans laquelle il y a aussi évidemment la liberté de culte. On n'a pas le droit d'encadrer a priori cette liberté. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas poursuivre, mais au civil, parce que vous avez été pour le coup blessé ou
diffamé.
Mais si vous voyez, la société n'estime pas qu'elle a été, elle, violentée. Et vous n'allez pas au pénal en vertu d'une loi qui existerait a priori, comme c'est le cas chez nous. C'est une loi pénale, la loi de 1881.
À vous écouter, Géraldine, on vit dans notre République dans une sorte de paradis de la liberté d'expression, qui est en fait un juste milieu entre un régime autoritaire où on a le droit de rien dire et un régime libertarien où, on aura où la liberté d'expression serait absolue et donc en n'étant pas encadrée, elle pourrait du coup blesser beaucoup de monde ou déboucher sur des violences.
Alors l'Amérique, incontestablement, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de loi a priori pour l'encadrer. Chez nous, non, elle est très encadrée. Cette loi 1881, elle existe toujours, elle a été réécrite souvent. Depuis 1972 à peu près, c'est-à-dire la loi Pleven contre le racisme, on a écrit de plus en plus de choses dans cette loi pour protéger les personnes. Donc on a écrit, on a évoqué les diffamations et les injures. Il y a des catégories à raison de la race, de l'ethnie, de la nation, de la religion, du handicap, du sexe, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle. Tout ça est écrit dans la loi, donc vous ne pouvez pas injurier ou diffamer quelqu'un n'importe comment dans ce pays.
Pour vous, on va y revenir, mais la liberté d'expression à la française, c'est la bonne?
C'est pas sûr. Je pense qu'il faut quand même faire attention à un excès de réécriture sans cesse de notre loi, parce que les victimes, si vous voulez, entre elles passent leur temps à se demander si les juges ont bien la même jurisprudence pour les uns que pour les autres. Je trouve qu'il faut, voilà, les juristes nous disent eux-mêmes qu'elle devient un peu boursouflée, la loi. Et puis je pense aussi que la violence, quand elle s'exprime dans la parole, elle est là dans la société. C'est un peu naïf de croire qu'on peut juste réguler les paroles et ça va faire cesser la violence. Donc, voilà.
À l'heure d'une première pause musicale, un terrible vague à l'âme nostalgique m'envahit en entendant les premières notes de ce tube éternel qui nous a tant fait groover, comme on disait à l'époque. Il faut dire que quand Family Affair est sorti, j'avais 19 ans. Cyril 42. Voici Mary J. Blige sur Inter.
Trying to love one another. Love.
Zen sur France Inter.
Pouvoir tout dire sur le papier, c'est formidable, gage d'une liberté absolue, mais tout dire si certains ne peuvent pas tout entendre, est-ce vraiment si malin que ça? Zoom aujourd'hui sur la liberté d'expression, de la théorie à la pratique, de Socrate à Elon Musk, avec vous Géraldine Mühlmann, prof de philo-politique. Vous nous accompagnez cet après-midi pour zoomer sur cette notion. J'aimerais citer un philosophe contemporain, Raphaël Antoven. Il dit « La liberté absolue, c'est pas la liberté, la liberté absolue, c'est la loi du plus fort ». Est-ce qu'on pourrait transposer cette analyse à la liberté d'expression?
On pourrait, en effet. La question est de savoir s'il faut viser un autocontrôle ou des sanctions, je dirais, sociales, simplement, lorsque les gens vont trop loin. Là, nous parlons de la parole ou de l'écrit. Ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on ait un outil légal? La France, contrairement aux États-Unis, a choisi d'emblée un outil légal de régulation. Mais vous savez, même dans des pays où la liberté de parole et d'écriture est a priori absolue, comme les États-Unis, les mœurs font le boulot.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il y a une loi, donc les mœurs?
Aux États-Unis, vous pouvez... La preuve qu'on peut tout dire, c'est que vous avez eu un candidat à la présidentielle, Donald Trump, qui a insulté un coup les femmes, un coup les Mexicains, un coup les musulmans. Enfin, je veux dire, notre équivalent français aurait dû comparaître toutes les semaines devant un tribunal pour infraction au regard de la loi 1881. Donc là, c'est pas le cas, il n'y a pas de loi là-bas. Donc ça montre bien que, voilà, ça existe. Mais vous avez des tas de lieux aux États-Unis où il y a des règlements et on ne peut pas dire beaucoup de choses. Et on peut même dire dans les campus américains aujourd'hui, c'est un des lieux au monde où pour un mot déplacé, vous pouvez perdre votre carrière, quoi. Donc il y a une réglementation très forte du langage. De même, on pourrait dire que les caricatures de Mahomet, elles étaient parfaitement autorisées aux États-Unis pour les raisons que je viens de dire. En fait, aucun journal ne l'a diffusé, mais c'est à cause des mœurs, vous voyez, c'est pas à cause des lois. Donc souvent, quand la régulation...
C'est de l'autocensure, en fait, aux États-Unis.
Oui, nous, on appelle ça comme ça, mais on peut aussi dire régulation, non pas par les lois, mais par les mœurs. Ça peut être intéressant ou pas intéressant, ça peut même être parfois pire que par les lois, beaucoup plus dur. Et là, nous parlons souvent d'autocensure. Ça peut être une régulation intéressante. Ça dépend.
En préparant cette émission, vous nous disiez qu'il faut prendre garde à ce qu'on envoie vers un juge, si je simplifie, que tous les propos ne méritent peut-être pas qu'on porte plainte, que ce n'est pas parce qu'on est blessé ou qu'on se sent blessé qu'il doit forcément y avoir réparation. Comment on trouve le bon équilibre, selon vous?
C'est très dur. Je pense qu'en tout cas, nous sommes dans un moment historique où, d'abord, c'est ce que j'appelle un peu le moment du grand ressenti. Les gens sont quand même vraiment vite dans le ressenti et la blessure. Et donc ça, c'est la première chose, c'est un terme de ressenti. On écoute ça beaucoup. On demande aussi, indépendamment de la question de la loi, ce qu'on appelle de la reconnaissance. Il y a une demande de respect et de reconnaissance. Donc ça crée des tensions, c'est vraiment exacerbé. Et puis, deuxième chose, aller porter plainte. Vous savez, aller porter plainte, bon, d'abord, il y a des conditions, hein, il faut y aller, faut pas attendre un an, normalement, après, c'est trop tard pour la liberté d'expression, vous n'avez pas 3 ans comme pour les actes criminels, et puis après, vous allez gagner quoi? Des longs procès, un avocat, alors, il y a des gens qui pensent qu'ils ont une vraie réparation lorsque quelqu'un est condamné. Il y a des gens qui trouvent aussi que finalement, cette réparation, faut peut-être pas exagérer, d'une certaine façon, le mal est fait, et parfois, il vaut mieux l'oublier que d'aller refaire un grand procès qui va tout remuer et surtout rendre la chose encore plus publique.
Mais donc c'est l'éternelle question des limites de la liberté d'expression. Comment on les limite? La philosophe Monique Cantos-Perber dit « par les torts objectifs faits à autrui ». Mais alors moi j'ai du mal à comprendre, les torts objectifs, ça reste subjectif en fait. Les torts objectifs qu'on cause à autrui, non?
Si c'est la loi, donc dans un cas français, c'est le juge qui décide.
D'accord.
Et donc là, de ce point de vue-là, ce n'est pas le point de vue de la victime. C'est justement la différence entre le culte du ressenti et de la blessure et le jugement qui essaye d'objectiver en se fondant sur un texte de loi qui prévoit ce délit.
Est-ce que la liberté d'expression aujourd'hui n'est pas devenue une excuse aujourd'hui sous couvert de la liberté d'expression? On a l'impression que c'est l'excuse que tout le monde donne. Ça vous paraît normal?
Je veux dire, pour insulter les gens,
par exemple.
Autres. Oui, mais en même temps, c'est vrai que, en général, si on insulte les gens, c'est sous couvert de la liberté d'expression, vous voyez. Et c'est pas parce qu'on insulte les gens qu'il faut prendre des mesures radicales, genre supprimer la liberté d'expression. Donc, moi, ce que je crois là-dessus, c'est que la liberté d'expression, elle est rugueuse, elle est impure. C'est pour ça que je l'adore comme objet philosophique. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et en même temps, il est vrai qu'il faut réfléchir à ces excès sans forcément qu'ils soient tous inscrits dans la loi, d'ailleurs. Et donc, j'aime bien parce que c'est dur de faire l'unanimité. beauté, c'est un objet qui est pas pur, quoi. Ça marche jamais. Oui, j'aime bien les objets qui marchent jamais. En
une transition idéale vers Quentin Lhuy. Face à vous, Géraldine Mühlmann. Oui, il a été confronté maintes fois à la censure. Vendredi, en la bravant et en évoquant, contre l'avis de Cyril, les petits déboires d'élocution de notre rédacteur en chef dans sa chronique D'où ça sort, où je cite Quentin, on est plus proche d'un exposé de CE1 que d'un concours d'éloquence.
C'est faux.
Quentin a signé, il le sait, sa lettre de licenciement, et c'est sur Champ de France que vous le retrouverez à la rentrée prochaine. Et voilà, on ne muselle pas un tel journaliste. Quentin, sur le terrain, j'imagine que les gens étaient d'accord avec vous.
Mais vous êtes un monstre.
C'est possible, oui.
Vous servez de moi pour dire ce que vous pensez, vous.
Oh, non.
Alors que vous êtes le seul que Cyril ne peut pas virer. Vous allez être bien tous les deux, hein,
l'année prochaine ouais.
À diffuser Jean-Pierre Marielle, OSS, comme deux boomers.
Ben voilà, là, on sera bien. On n'aura plus la Gen Z pour nous ennuyer.
Alors, de mon côté, je devais me rendre à Bordeaux ce week-end pour parler de liberté d'expression, mais mon train a été supprimé. Voilà, donc j'ai passé quelques heures aux abords de la gare Montparnasse à parler avec les gens qui arrivaient de liberté d'expression. Ils arrivaient tous à la gare en levant les yeux au ciel, direction des panneaux d'information. Je rencontre Camille, la vingtaine, elle marche sur le parvis.
Je suis pas encore rentrée dans la gare, alors ça va être la surprise, mais je crois que mon train n'est pas supprimé.
Okay. Vous allez où ?
Je vais à Saint-Mexant. C'est pas très loin de La Rochelle.
Je lui fais lire le mot du jour dans Zoom Zoom Zen. Sans surprise, l'actualité s'invite dans sa réponse.
La liberté d'expression.
Je vous vois froncer les sourcils.
on peut dire qu'en ce moment, elle est quand même très très entravée. En fait, on n'a plus aucun moyen là, de se faire entendre, on a l'impression. Et du coup, je me demande jusqu'où ça va aller.
Mais est-ce que ça entrave vraiment la liberté d'expression ? Parce que finalement, moi demain, je vais dans la rue, je vais... sur un plateau de télé, j'ai le droit de dire ce que je veux quand même.
Alors on a le droit de dire des choses par la parole, mais on voit bien que ça sert à rien. Forcément, il faut passer par l'action. Et on voit qu'en fait, cette action, elle est quand même entravée. Enfin, on atteint le droit de grève, on se fait réprimer en manifestation. À partir de là, cette question de la liberté d'expression, elle est quand même mise à mal.
Alors qu'il a clairement renoncé à partir en raison des grèves, je vois cet homme qui attend le bus pour rentrer chez lui, lunettes de soleil carrées, cheveux bruns, doudoune noire. Il s'appelle Nicolas, il a la quarantaine et il est accoudé à sa valise.
La liberté d'expression. On peut dire que j'ai beaucoup voyagé, donc il y a des pays où la liberté d'expression elle n'existe pas. Par exemple Cuba, j'en reviens, j'étais il y a exactement 2 mois. Et là-bas, en fait, le peuple ne dit rien, quoi. On n'a pas le droit de s'exprimer. En fait, ce qui m'a choqué, c'est que les gens manquent de tout. Mais ne se plaignent pas. Il manque de nourriture, il manque de médicaments. Et quand on essaye un peu de développer avec eux, ça m'est arrivé, j'ai l'impression qu'ils sont toujours espionnés, quoi. Ils sont là toujours... Et ça qui m'a assez surpris, quoi. Ils se méfient des gens autour d'eux, quoi. Donc voilà, donc en France, nous, je pense qu'on est libre de s'exprimer. Moi, pour moi, on a le droit de tout dire, quoi. Et je pense qu'en France, on peut tout dire.
En nous écoutant, Eric, qui est artiste peintre, réagit. Est-ce qu'on peut vraiment tout dire en France, tout aborder, tout dessiner ?
Je pense qu'on peut, je pense qu'on doit. Après, aujourd'hui, certainement qu'on prend des risques. Je pense que depuis Charlie, on prend des risques. Voilà, on l'a vu. Ces gens sont morts pour leurs idées. On n'a pas jugé savoir si c'était bien ou pas bien. Hein. Je n'ai pas jugé qui était Charlie. Mais on voit qu'aujourd'hui, on peut prendre des risques en disant ce que l'on pense et ce qu'on ressent. Et c'est peut-être là que la liberté d'expression peut avoir changé.
Léa et Laurent sont au bout des voies 22 et 23 de la gare Montparnasse. Je vois leur prénom écrit sur leur café à emporter qui fume. Je les interpelle avec la pancarte.
La liberté d'expression, très grand sujet. Pour moi, c'est un droit qu'on a et on a le devoir de l'utiliser.
Tout est trop politisé maintenant, on ne peut plus rien dire. En ce moment, en plus, c'est marrant, c'est la semaine de l'humour. J'ai été voir un humoriste début de semaine et il expliquait que maintenant, même lui, il ne peut même pas, dans ses sketchs, tout dire. Parce que sinon, il aurait trop de problèmes. Et en fait, de manière générale, c'est ça, que ce soit au boulot ou au niveau perso, on a toujours des soucis selon nos manières de penser, donc faut faire toujours gaffe, quoi.
À ce moment-là, un jeune homme s'approche, il veut absolument réagir au propos de Laurent.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Eh bien, je vais bien, et vous ?
Ça va très bien.
C'est quoi votre prénom ?
Je m'appelle Mehdi, et vous ?
Quentin.
Enchanté, Quentin.
On est France Inter.
France Inter, oui, j'ai pu le voir.
La liberté d'expression est une chose qui change. Nous pouvons, fut un temps, dire quelque chose que nous ne pouvons plus dire maintenant.
Alors quoi ?
Par exemple... L'exemple d'un comédien dur, un comédien qui s'appelle Dieudonné. Cette personne-là a été interdit complètement de créer des spectacles.
Mehdi fait référence notamment à la circulaire de Manuel Valls qui a fait interdire les spectacles de Dieudonné il y a 10 ans. Dieudonné a par ailleurs été condamné plusieurs fois pour propos antisémites, injures racistes, ce qui ne l'a pas empêché de créer plusieurs spectacles depuis. Mehdi poursuit.
L'intérêt qu'on a par exemple pour la religion musulmane et le port du voile. Que
on peut rire de la religion.
Pour moi non. Mais sachant que nous sommes dans une démocratie et que la majorité veut pouvoir rire de tout, je dirais oui. C'est la réalité. Il faut savoir, comme voulait Sarkozy, s'adapter. S'adapter à là où est-ce que l'on est. Ou sinon, on peut très bien partir. C'est la réalité. Mais on ne va pas faire du mal à quelqu'un intentionnellement.
Sujet délicat que cette liberté d'expression. Vous la considérez comme un droit, un devoir. Vous la comparez avec d'autres régions du monde. Elle évolue. Mais rien que le fait de pouvoir en parler, d'en débattre jusque dans la rue, lui donne peut-être sa plus belle définition.
Zoom, ce lundi, vous l'avez compris, sur la liberté d'expression. On vient d'entendre ces réactions dans la rue. Et Mehdi qui nous dit, selon moi, on ne peut pas se moquer de la religion, mais en France, une majorité de gens ont décidé qu'on pouvait en rire, alors je l'accepte. Qu'est-ce que vous inspire cette réaction, Géraldine Mühlmann ?
Elle m'inspire d'abord, même en France, bon, ce sont les lois et donc les jugements qui régulent la liberté d'expression, mais les mœurs aussi. Je veux dire qu'il y a des tas de choses qu'un humoriste aujourd'hui se prive de dire. Et vous savez quoi? Il a peut-être pas tort, parce que ça ferait plus du tout marrer les gens. Elles seraient pas forcément illégales, ces blagues. Pas forcément.
Mais elles seraient plus audibles et donc plus drôles.
Donc, ce point, les mœurs, ça existe aussi chez nous. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui défendent la liberté d'expression absolue. Mais en fait, presque chacun a un point en lui où ça va trop loin. Je vais prendre l'exemple caricatural, Donald Trump. Alors lui, vraiment, il n'a aucune limite. En plus, il peut le faire aux États-Unis, donc les femmes, donc c'est tout, quoi. Les musulmans, les étrangers, les femmes, tout le monde en prend pour son grade. Et pourtant, c'est Donald Trump qui aimerait bien qu'on pénalise le fait de brûler le drapeau américain, qui fait partie du premier amendement aux États-Unis de ce que couvre un droit d'expression. C'est un juge, le juge Scalia, qui en 1989, dans un arrêt de la Cour suprême, a dit que le droit de brûler son drapeau existe et c'est une expression. Et vous voyez, même Donald Trump, qui vraiment bénéficie du premier amendement, la liberté totale de parole, qui est pour, il a une limite. Et donc, je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et je répète, c'est pour ça que c'est un sujet de recherche passionnant. Parce que les gens ne sont pas toujours cohérents. Et même en général, ne le sont pas du tout.
On a entendu plusieurs exemples. Donc Camille, qui fait vite le lien avec l'actualité et cette lutte contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle? Est-ce que les Français souffrent vraiment d'un manque de liberté d'expression en se sentant oppressés de manifester et de ne pas pouvoir le faire? C'est peut-être plus philosophique.
Il y a une autre chose qui est à la mode en ce moment, depuis un certain temps, en même temps que le culte du ressenti de la blessure. Tout le monde est blessé tout le temps. Vous savez, je trouve que c'est très frappant en littérature, dans l'espace public. Vous m'avez choqué, vous m'avez blessé. Bon. Mais l'autre chose qui est troublante, c'est que les gens pensent qu'ils sont victimes de choses, de complots, d'une domination. Donc, longtemps, par exemple, les gens de droite ne disaient pas « je suis droite », ils disent « je suis contre le politiquement correct qui m'empêche de parler », sauf que ce faisant, ils étaient en train de parler, souvent. Et inversement, vous avez tas de gens de gauche qui dénoncent une emprise sur la parole publique, je ne sais pas moi, d'intérêts financiers, etc. Ce faisant, ils sont en train de le dire. Donc, attention, en matière de liberté d'expression, la chose la plus facile, c'est de se prendre pour un persécuté. En fait, j'utilise, mais si je l'utilise, c'est que ça va bien. Quoi. Dans les pays où on est vraiment persécuté, on n'est pas en situation de le dire.
On continue à zoomer sur la liberté d'expression avec vous, Géraldine Mühlmann. On se posera notamment la question de la responsabilité, ou plutôt pour l'instant de l'irresponsabilité des plateformes sur les contenus qu'elles relayent et diffusent. Si je suis sur la question un peu pessimiste, c'est évidemment pas le cas d'Hervé qui estime que tout ira mieux demain sur Inter.
J'aurais du mal à m'étendre, j'aurais du mal, tu sais, sans mes bordels, sans nom, entre ombre et lumière. J'aurais dû porter ton nom, je plane comme un mystère. C'est pas comme la défonce, elle, je suis m'en défaire. Oh. Celui qui fantasme, qui finira dans la
tout ira mieux demain, 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 tout ira mieux demain.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Tout ira mieux demain, c'est aussi ce que je dis chaque jour après le quiz à Quentin, afin de lui mettre un peu de baume au cœur. Car il y a une liberté que je chéris autant que la liberté d'expression, c'est la liberté de changer les règles du Zoom Zoom Test au gré de mes envies.
Oh là là,
ce qui, admettons-le, pénalise souvent Quentin. Aujourd'hui,
voilà, merci.
Pour fêter cette liberté d'expression, je vous propose un quiz censure et cinéma. Depuis le célèbre code Hays aux États-Unis et ses règles aussi futées que, par exemple, si un homme et une femme apparaissent sur un lit, l'un des deux doit avoir un pied touchant le sol. Comme si le fait d'avoir un pied touchant le sol allait rendre la scène moins explicite, alors qu'on a chez Dorcel de nombreux exemples qui prouvent le contraire. Il y a bien eu d'autres formes de censure plus ou moins subtiles depuis. Partons d'abord au Vietnam. D'après vous, quel film a été tellement censuré au Vietnam qu'il aurait mieux fait de ne pas sortir du tout ? La Grande Bouffe, sachant qu'ils ont retiré toutes les scènes de bouffe ? 50 Shades of Grey, sachant qu'ils ont retiré toutes les scènes de sexe ? Ou Astérix, l'Empire du Milieu, sachant qu'ils ont retiré toutes les scènes drôles ? Le film fait 8 minutes.
B !
Oh, ça a été unanime. Excellente réponse. Alors bien sûr, le ministre... La censure vietnamienne n'a pas censuré Astérix, pas un monstre non plus. En revanche, 50 nuances de Grey a été très très censuré. En fait... Une autre question. Retirer toutes les scènes de sexe de 50 nuances de Grey, ça représente plus ou moins de minutes que retirer toutes les scènes de sexe, de violence et de consommation de drogue dans le Loup de Wall Street.
Attendez.
Ah non, c'est...
Non, il y a
moins de minutes.
Manon déjà n'a pas compris la question.
Non, ça représente moins de minutes.
Non, il y a plus de minutes de drogue dans le Loup de Wall Street que de scènes de sexe.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani qui a bien. Mais oui, c'était bien reformulé. Retirer.
Oh là là, c'est honteux.
Retirer les scènes de sexe de 50 nuances de Grey, ça représente 25 minutes du film en moins au Vietnam. Alors qu'aux Émirats Arabes Unis, si jamais un jour vous décidez de louer le Loup de Wall Street, vous vous retrouverez quasiment avec un moyen métrage, puisque c'est pas moins de 45 minutes de film qui sont amputées, soit 26% du film, un chiffre fou. Mais le record absolu reste détenu par notre émission, puisque vendredi, au moment de valider le reportage de Quentin dans un stage de MMA, Cyril a été obligé, au nom de nos valeurs chrétiennes, de couper pas moins de 70% de cette immersion un peu trop immersive, notamment tous les passages concernant la relation ambiguë qui s'est rapidement nouée entre Quentin et le dénommé Nounours.
Tu peux appeler Nounours ?
Nounours ?
Oui, Nounours.
Là, je peux vous dire, au Vietnam, le micro-tente, il faisait 22 secondes. Alors attention, vous aimez le soleil, la sangria et les régimes qui savent gérer les black blocs. Direction l'Espagne de Franco. À cette époque, Manon, vos séjours barcelonais n'auraient pas eu tout à fait la même saveur, puisque l'adultère était très mal vu. Alors forcément, quand ce libertin, ce canaillou lubrique de John Ford, veut sortir Mogambo, en 1953, la censure franquiste lui tombe dessus, et pour cause, boucher les oreilles de Cyril, le film met en scène l'histoire d'amour adultérine entre Clark Gable et Ava Gardner. D'après vous, comment John Ford va-t-il berner le comité de la censure ? En transformant l'intrigue pour que Gable et Gardner soient mari et femme ? En transformant l'intrigue pour que Gable et Gardner soient frère et sœur ? Ou en transformant l'intrigue pour que Gabelle et Garner soient franquistes ?
B. Frère
non, la C peut-être. Mais ce serait bizarre.
Pour vous, Manon, pour rendre le film moins coquin, les deux passent le film à se galocher. Hein. On a fait un frère et une sœur. Vous rajoutez un zeste d'inceste là-dedans.
Il manquait
c'est une bonne réponse, non. Manon Mariani, et oui.
Il en perd son casque.
Et oui, sous Franco, faire des bisous à sa maîtresse, c'était muy choquanté. En revanche, rouler des patins à sa sœur, ça passait crème. Décidément, le code Franco n'était pas très clair, contrairement au code Hays, qui lui était limpide. Nous sommes donc aux États-Unis dans les années 30. La Grande Dépression génère des débordements sociaux que Cyril Lacarrière décide de réprimer en intégrant le FBI. Et à Hollywood, les producteurs marchent sur des œufs. Le sexe, la violence, les gros mots sont bannis. Aucun baiser ne peut durer plus de 3 secondes. Ce que ce filou d'Hitchcock contourne en filmant Cary Grant et Ingrid Bergman s'embrasser 3 minutes, mais en entrecoupant le baiser de quelques dialogues et autres plans de coupe rusés. Le code Hays va perdurer jusqu'en 1968 et son esprit puritain plus loin encore, à travers l'organisme régulateur MPAA, le Motion Picture Association of America, qui a failli classer X le film culte Taxi Driver. Alors c'est vrai que la bande-son évoquait plus une soirée Playboy qu'un film d'auteur, mais d'après vous, face à l'entêtement du comité de la ceinture, qu'a fait Martin Scorsese ? Il a réécrit Taxi Driver pour que le film puisse être diffusé ? Il a retourné les passages de Taxi Driver ? Ou il n'a rien changé ?
Il n'a rien changé.
Ouais, je pense aussi. Il n'a rien changé.
Partant du principe qu'on finit par s'accoutumer à la violence des images, Martin a simplement renvoyé la même version du film à chaque fois au comité.
Génial,
et
génial.
Ça a fini par marcher. Enfin, attention, top ! Parfois, pour duper la censure, il faut faire plus de concessions que Martin Scorsese. Sauf évidemment si ces apparentes concessions se retournent contre l'organisme régulateur pour dénoncer son absurdité. D'après vous, comment Edgar White, le réalisateur du délirant Shaun of the Dead en 2004, a-t-il réussi à sa manière à humilier le censeur tout en respectant ses règles ? En remplaçant le sang rouge par du sang vert, moins choquant ? En remplaçant les morsures des vampires par des bisous de vampires ? Ou en remplaçant tous les fucks du film, de tous les dialogues, par des funk.
C'est ABC.
C'est drôle. Les trois
ABC.
Ouais, je sais
c'est
pas.
Bizarre le son.
C'est une bonne réponse.
Ah, c'est la C.
La parade est géniale. Pour conserver le ton du film, sans se priver des jurons, mais que le film reste tout public aux États-Unis, le réalisateur a l'idée de donner la consigne aux acteurs de remplacer tous leurs fuck par des funk. Ça donne ça.
Because every other funker in my funking department is funking ill. And can you see why I'm so funking angry?
Oh my funking god! C'est Quentin lui qui remporte le Zoom Zoom Test.
Merci à tous.
Merci à vos parents, peut-être.
Ma mère, oui, c'est pas.
Géraldine Mühlmann, prof de philosophie politique, présentatrice de l'émission Avec Philosophie sur France Culture tous les jours à 10h, c'est bien
à
ça
10h, oui.
À 10h, est avec nous pour zoomer sur la liberté d'expression, un concept qui clash souvent avec celui d'abord de la liberté religieuse. Selon le sociologue François Héran, la liberté d'expression tend à étouffer la liberté de croyance. Ceux qui disent défendre l'arc républicain occulte l'ampleur des discriminations ethno-raciales et religieuses. Sachant que votre prochain livre porte sur l'imposture du théologico-politique, vous avez certainement un avis là-dessus, Géraldine.
Je pense que la liberté d'expression est une notion qui est profondément liée dans l'histoire au régime républicain. Je pense que le républicanisme est un régime qui, en effet, ne connaît pas de sacré religieux, qui considère que voilà, les religions doivent être respectées, qu'il y a de la liberté religieuse, mais qu'on peut très bien parler librement de ce qui est tenu pour sacré dans certaines religions. Donc, en effet, il y a des frictions, c'est exact. Maintenant, si vous me demandez mon avis, j'ai à cœur que la République ait ses règles à elle. Ça ne veut pas dire qu'on puisse dire n'importe quoi. Nous l'avons dit, il y a des limites dans la loi. Que ce soit elle qui les définisse, elle d'un point de vue laïque ou séculier, comme on dit parfois, y compris pour savoir comment on traite le sacré. Elle peut demander certaines limites, mais en tout cas, c'est la République qui doit le dire. Et souvent, on dit bon, il ne faut pas heurter les croyants, mais les religions, on peut dire dans l'absolu tout ce qu'on veut d'elles, mais pas insulter les membres d'une communauté. Bon, il faut bien savoir que quand on dit beaucoup de mal d'une religion, il ne faut pas non plus être complètement naïf. Ça ne fait pas du bien aux gens qui la partagent, mais c'est ainsi.
Repartons plutôt aux États-Unis, le paradis de la liberté d'expression sans limite, et pour parler aussi du reste du monde, parce que les plateformes, surtout les GAFA, comme on les appelle aujourd'hui, il y a un petit problème de responsabilité quand même. Absolument. Puisque la liberté d'expression est soi-disant totale sur ces réseaux, ils ne prennent pas de responsabilité quant à ce qui est dit chez eux, sur leur plateforme. Est-ce que ça, un jour, ça va finir par poser problème ?
Alors, aux États-Unis, encore une fois, il n'y a pas de loi a priori pour réguler la liberté d'expression. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de la censure du cinéma américain. Oui, c'est extraordinaire. Les mœurs font ce que les lois ne font pas. Parce que c'est des réglementations, exactement comme dans les campus américains, on réglemente le langage, alors que les lois n'y obligent pas. D'ailleurs, l'obscénité, elle a été appauvrie par la Cour suprême. C'est un concept tout petit aux États-Unis du point de vue de la Cour suprême. Par contre, la vision américaine de l'obscène, il suffit qu'il y ait le sein de Janet Jackson qui sorte à la fin d'une chorégraphie, ça se passe pas bien, quoi. Donc, si vous voulez, pour ce qui est de la Amérique, ça va être très dur de réguler. C'est une des raisons pour lesquelles on ne pourra pas avoir quelque chose d'uniforme dans le monde. Donc ça fait partie des difficultés. Chez nous, il y aurait peut-être quand même quelques solutions, au moins pour que ce qu'on appelle dans la loi de 2004, qui a mis la loi de 81 dans le numérique, le prestataire technique soit un petit peu impliqué, au moins qu'il ait par exemple une obligation de surveillance, ne serait-ce que cela, sans forcément être inculpé à chaque fois, avoir une obligation de surveillance, c'est pas idiot.
Justement, on voit de plus en plus de nouvelles plateformes qui apparaissent, comme je pense à Discord, qui est quand même un forum où il n'y a absolument pas de modération. C'est vendu comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dessus. Comment on les protège, ceux qui sont victimes d'injures, sur ces plateformes qui sont vraiment pro-liberté d'expression?
Alors, d'abord, on peut porter plainte contre les auteurs. C'est possible. C'est vrai qu'on pourrait demander un peu d'aide de la part des plateformes. Après, il faut aussi faire attention, parce que si on demande de la part d'une plateforme, elle peut aussi réagir en disant « j'interdis énormément de choses ». Bon, on peut dire du coup, elle est plus respectueuse de la liberté d'expression.
Oui,
vous voyez ça. Mais c'est vrai qu'on a du mal à... Moi, mon avis là-dessus, c'est qu'on a une loi de 1881 qui exige, pour pouvoir porter plainte, enfin, d'avoir affaire à un organe de presse, avec un directeur de la publication, un imprimeur. Bon. On a l'équivalent avec des blogs, si vous voulez. Pour un réseau social, ils refusent, au fond, le statut qu'on pourrait dire, ne serait-ce que d'imprimeur, qui, à un moment, peut être inculpé. Et peut-être qu'il y a un peu de travail à faire pour les faire au moins rentrer par un petit bout dans notre loi 1881. Ça ne me paraît pas tout à fait impossible, pour qu'au moins, on puisse poursuivre correctement. Voilà.
On a vu que c'était très important que la liberté d'expression soit encadrée, limitée, bornée. L'historien de la presse et des médias, Alexis Lévrier, dit carrément qu'une liberté d'expression absolue profite toujours à l'extrême droite. Est-ce que ça, c'est un constat politique que vous partagez?
Non, je ne crois pas. Ça dépend des époques.
Ça dépend des époques. Ça peut être l'extrême gauche aussi, ça peut être toute forme d'extrême ou de populisme.
Vous avez une minute pour un exemple? 1971, les Pentagon Papers, des documents secrets défense, sont pris par un lanceur d'alerte, Daniel Ellsberg, et publiés par le New York Times. Nixon devient fou, il essaye de faire interdire. Arrêt historique de la Cour suprême qui dit pas du tout. Et non seulement le New York Times n'a pas de problème derrière, juridique, mais le lanceur d'alerte non plus. Sauf qu'en vérité, les temps changent et c'est plutôt les temps qui changent aujourd'hui. Il y a quelques années, vous aviez... celui qui a fait Wikileaks, là, Julian Assange, qui a un lanceur d'alerte, elle s'appelle Chelsea Manning, sur des documents qui ne sont pas secrets défense. Et il prend 175 ans de prison. En tout cas, c'est ce dont il est menacé, puisqu'il est en vérité resté à l'étranger, pas aux États-Unis. Et Chelsea Manning, elle, sur place, la lanceuse d'alerte, elle prend 35 ans et elle doit d'être sortie de prison au fait que Obama, l'exécutif, et commuer sa peine. Donc ça veut juste dire que ça dépend des contextes. Mais longtemps, les combats pour la liberté d'expression ont été de gauche, au sens où je considère qu'être de gauche, mais aussi libertarienne. Il ne faut pas non plus exclure complètement certains combats de libéraux. Le fait d'être contre l'État, quoi. C'est-à-dire en tout cas de s'autoriser à dire des choses sur l'État et à l'obliger à une transparence.
16h47 sur France Inter. Un frisson d'excitation parcourt votre échine pour deux raisons. D'abord parce que vous le savez maintenant...
Le direct, c'est sans filet.
Mais aussi parce que Benjamin Tranier arrive et qui plus est avec un nouveau personnage inédit au nom fleuri, vous allez voir. Mais juste avant, nous allons zoomer sur l'actu des réseaux sociaux avec une actu qui déborde aujourd'hui largement les réseaux sociaux puisque tout part d'une tribune dans le JDD hier, Manon, tribune polémique qui a fait réagir tous les influenceurs français.
Régulation des influenceurs, 150 créateurs de contenu lancent un appel aux députés. C'est le titre de cette tribune publié dimanche dans le JDD, signé par les plus gros créateurs de contenu français. Squeezie, Seb Lafrit, Gotaga, Cyprien, Natou, Sananas et j'en passe.
Nous entendons parler des influx voleurs, du combat à mener contre nous. Nous pensons que c'est une erreur, qu'une minorité est devenue une généralité. Ne cassez pas le modèle vertueux que nous construisons aux quatre coins de la France, avec et pour les Français.
Ces 150 influenceurs appellent donc les députés à ne pas casser leur modèle économique. Ils demandent surtout une distinction claire et nette entre eux, les créateurs de contenu, et les autres qui ne font que des placements de produits sur leur réseau. Autrement dit, ils ne veulent plus être associés à des Maëva Guénam ou Dylan Thierry, candidats de télé-réalité exilés à Dubaï. Le timing est évidemment calculé car cette semaine, une proposition de loi visant à encadrer l'activité des influenceurs va être examinée. Le but, sanctionner les mauvaises pratiques commerciales en les soumettant aux mêmes règles publicitaires que les
médias traditionnels. Tout contenu sponsorisé devra être signalé et la responsabilité des plateformes sera aussi engagée.
Et donc cette proposition de loi ne plaît pas aux influenceurs?
Alors c'est ce qu'on pense quand on lit la tribune, sauf qu'hier, certains influenceurs signataires de cette tribune s'en sont désolidarisés. C'est le cas de Squeezie, le youtubeur français le plus suivi. Voilà comment il s'est justifié sur Twitter.
Cette tribune ne fait aucune distinction entre les créateurs de contenu et les influenceurs et semble juste limiter la casse sur les influenceurs mal intentionnés. Cette absence de distinction est aussi présente dans les signataires parmi lesquels on retrouve des influenceurs à l'origine même du problème.
Le vidéaste ajoute qu'il n'a rien contre la loi car elle ne l'impactera pas, mais le plus étonnant est qu'il précise ne pas avoir lu la tribune avant sa publication. Et c'est le cas de beaucoup de ses collègues, Henri Tran, Dr Nozman, Cyprien Gotaga, Alice Grousset, tous ont été étonnés de voir leur nom associé.
Mais comment c'est même possible ça?
Alors en fait, derrière cette tribune, il y a l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Après les réactions des influenceurs, elle a précisé dans un tweet qu'elle soutient la loi et qu'elle regrette que la tribune ait été mal perçue. Elle a aussi ajouté que la tribune a été soumise directement aux créateurs ou à leurs représentants pour obtenir un accord. Bref, c'est un peu quiproquo sur quiproquo cette histoire. Si on résume, tout le monde est d'accord sur le fond, mais la forme ne va pas. Seb Lafrite, au micro de Sonia De Villers ce matin, a bien résumer la situation.
On a tous globalement signé un truc avec 2-3 échanges WhatsApp, ce qui est genre la honte pour nous parce qu'on passe un peu tous pour des cons, ouais. Ce qui est un peu le cas parce qu'on est vraiment cons d'avoir agi comme ça. C'est trop d'actu là pour qu'on ait vraiment bien compris quelles étaient les intentions des agences qui nous ont
sollicité
pour faire ça, ce qui fait qu'on s'est retrouvés là-dedans.
Le youtubeur aux 5 millions d'abonnés avoue donc qu'ils auraient dû être plus vigilants et qu'ils se sont fait avoir. Il précise que lui aussi est en faveur de la loi. La conséquence de tout ça, c'est que beaucoup se moquent des créateurs de contenu sur les réseaux. Ils n'avaient pas besoin de ça, hein. Certains ne prennent déjà pas leur métier au sérieux. Alors là, ils ont donné du grain à moudre à tous leurs détracteurs. En tout cas, aucune réaction du côté des personnalités vraiment concernées par cette proposition de loi, a.k.a. les influvoleurs, comme les surnomment Booba. Et pourtant, c'est eux que la loi va le plus impacter, même ceux qui habitent à Dubaï. Et il était temps, car de trop nombreuses arnaques ont été signalées, de trop nombreuses dérives se sont produites. Encore une fois, on parle de personnes aux millions d'abonnés qui s'adressent aux plus jeunes. Ça paraît donc plus qu'urgent que leur travail soit réglementé de façon légale. Réponse cette semaine.
Merci Manon. À noter que Cyril, alias Cyril the Potato, le Seb Lafrite de Dailymotion, a fait savoir qu'il ne signerait pas cette tribune, car je le cite, chacun de ses placements produits est 100% réglo, même la poudre de corne de rhinocéros. En coulisses, Benjamin Tranier peaufine son tout nouveau personnage. Il nous rejoint juste après Oliver Sim, Run the Credits sur Inter.
What's
Inter. Zoom, zoom, zen.
Zoom, zoom, zen, spécial liberté d'expression se poursuit. Et justement, pour finir en beauté, on reçoit un certain Vérocu, qui est caricaturiste pour l'hebdomadaire Michel Lebdo. Comme tous les caricaturistes aujourd'hui, certains l'accusent d'attendre le moindre fait divers, le moindre événement tragique pour faire parler de lui. Lui se voit surtout comme un défenseur de la liberté d'expression. Vérocu, bonjour.
Pardon, je finissais mon dessin. Voilà, hop. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour aux petits enfants qui nous écoutent. N'oubliez pas l'opération avec la marque Petit Bateau que j'ai lancée sur TikTok et sur le forum Canal J. Pour chaque photo de votre petit slip que vous m'envoyez, je vous envoie un dessin dédicacé de Vérocu. Alors, pour vous répondre, en effet, je suis caricaturiste, c'est-à-dire grand chevalier de la liberté d'expression. C'est pas moi qui le dis, c'est mon blog. Merci de m'inviter. Je sais que c'est toujours un peu compliqué, voilà, de me recevoir compte tenu des différentes menaces de mort dont je fais l'objet depuis mon dernier dessin en double page de Michel Lebdo. Menaces qui nous ont permis de tripler les ventes quand même, qui devraient passer bientôt là, la barre des 100 exemplaires pour vendredi, on peut les applaudir. Bravo.
Bravo.
Voilà. Alors, suite à cette dernière publication, je rappelle que le papa de la défunte, la petite Zoé, victime du tueur Hans Fiesdup, est resté digne. Il n'a signé aucune pétition contre moi. Virgule, lui. Voilà. Bon, il s'est contenté d'essayer de me renverser avec son 4x4 à 3 reprises. Mais je le dis aux familles, vous n'avez pas le monopole de la douleur. Non. Voilà. On m'a fait faire un pogo avec un cache-cas. Et là, moi aussi, je souffre. Voilà. Vous savez, et c'est très important ce que je vais vous dire, Mathieu et tous les auditeurs, j'écoute. La liberté d'expression est primordiale dans notre pays pour ne pas basculer dans une dictature de la pensée. Mais il faut respecter la frontière entre la liberté de choquer et le rire à tout prix sur le malheur des autres. Voilà. Et quand je dis ça, je ne parle pas de moi. Hein. Je suis caricaturiste, j'ai tous les droits. Je m'adresse à tous ces gens-là, tous ces gens qui font des montages de moi en fourniraient ou me menacent. Ou me menace suite au succès de ma dernière caricature, un dessin que j'ai fait au lendemain de la découverte du corps de Zoé, où je dis qu'on aurait peut-être effectué les recherches plus tôt si la gamine, elle ressemblait pas autant à Olivier Dussopt. Et oui, c'est hilarant, mais ça n'a pas fait rire tout le monde. Un mot pour la famille de la victime, tout de même, oui, et malgré tout, qu'ils sachent que la souffrance, voilà, la douleur de la perte d'un enfant dans des conditions aussi violentes, ne doit pas vous faire oublier ce qui nous anime tous. La liberté d'expression. Et oui, voilà. Alors, de toute façon, vous allez encore m'emmerder à chaque dessin, ça j'en suis sûre. Le malheur des autres me donne du plaisir et me rend créatif. Voilà, faut vous habituer. À chaque fait divers, vous allez découvrir que, oh bah, Vérocu, c'est un enculé. Bah oui. Quand il y a eu l'accident de bus scolaire avec les enfants handicapés, j'avais dessiné Émile Louis au paradis qui disait, ceux-là, c'est pas les miens. Paf, menace de mort. Vachement original. Pour le ramadan, là, pendant les grèves, j'ai dessiné un manifestant djellaba qui dit « Jiffy la grève, dit la fin, Inch'Allah ». Paf, du caca dans ma boîte aux lettres. Original. Dans le vol Tokyo-New York, quand il s'est craché, j'avais fait un dessin d'un sumo en Saint-Pierre et qui dit « Je crois qu'il y a un sushi ». Bim, coup de fil, félicitations de Laurent Ruquier. Voilà, merci. Tous ces dessins éclatés, ils marchent parce que ça vous énerve. Si vous arrêtiez d'être offusqué tout, j'aurais plus de boulot et donc vous serez plus offusqué. Comme vous êtes des gogoles et que vous vous retenez jamais la leçon, ben je suis encore là. Oula, pardon, excusez-moi, voilà. Oula, faut que j'aille filer à la rédac. Là, il y a une affaire de prêtre pédophile dans un pays musulman qui vient de sortir et faut que j'aille blesser des millions de gens qui n'ont encore rien fait juste parce que j'en ai le pouvoir. Liberté d'expression, à bientôt. Rendez-vous au prochain drame.
À bientôt, Benjamin Tranier, et à bientôt à tous. Merci Géraldine Mühlmann d'avoir été avec nous. Je ne peux pas vous dire au revoir, je vous le dis quand même. On a explosé tous les temps, tous les timings et Charline Vanhoenacker nous a déjà rejoint. Et ça, c'est vraiment signe qu'il est temps de rendre l'antenne. Bonjour Zoom Zen. Bonjour Charline.
C'est tellement dans l'air du temps de faire tout exploser que voilà, vous êtes tellement moderne. Nous recevons une jeune trompettiste de 24 ans. Elle s'appelle Lucienne Renaudin-Vary. Et elle manie autant le jazz que le classique.
autant le jazz que le classique. Mmh. Et puis, évidemment, vous parlez un petit peu de l'actualité quand même, Charlie, à mon avis.
À votre avis.
Non, aujourd'hui, vous allez...
Oui, complètement. Bah là, pour ça qu'il y a de la musique, pour apaiser.
Pour compenser, pour apaiser les nerfs.